Henri Gougaud, L'arbre d'amour et de sagesse, deuxième cassette, première face, page 51. Flandre. Halewyn, H-A-L-E-W-Y-N.
Il était une fois au bord de l'océan, un beau château dressé sur le roc et l'écume. Jusqu'aux brumes du ciel, il s'élevait. Au plus haut de ses murs était une fenêtre sans cesse environnée d'oiseaux. Là se tenait Lauriane, L-A-U-R-I-A-N-E, tous les jours de sa vie, à guetter le lointain, seul et mélancolique. Un soir, près de son père, assis devant le feu dans sa chambre fermée. Pourquoi ne suis-je pas comme les autres filles, dit-elle tristement. J'en vois certains matins qui vont sur les rochers. Elles jouent, elles rient, elles dansent. Parfois, je les appelle. Elles lèvent le front et courent à la mer. Alors, je tends les mains aux aigles, mais ils passent. Et je reste à pleurer. Son père répondit. Lauriane, fille aimée, n'as-tu pas les bijoux les plus précieux du monde, les jeux les plus subtils, les robes les plus belles ? Que voudrais-tu ? Dis-moi, qui manque à ton bonheur ? J'aimerais être pauvre et libre de courir dans les embruns salés. Son père, dans son grand fauteuil, baissa la tête. Son visage pâlit et son front se rida. Fille, fille, dit-il, j'irai pour toi chercher la lune et les étoiles. Adieu, pour ton plaisir, j'irai les demander. Mais par pitié pour moi, oublie la porte en fer qui ouvre sur la mer. Oublie le vent salé. Oublie le bruit des vagues. Si pour l'amour de toi, je dois rester captive, mon père, au moins, dis-moi quel crime j'ai commis. Un secret me tourmente. Délivre-toi de lui. Délivre-nous ensemble. Le vieil homme demeura silencieux un moment. Il soupira. Il dit enfin. Hélas, la vérité un jour doit être dite et ce jour est venu. Ma fille, écoute-moi. Au bord de l'océan est un grand rocher noir. Sache qu'il est maudit. Ta mère, au lendemain de ta venue au monde, m'appela auprès d'elle et me dit, mon mari, Lauriane, notre enfant, est fille d'Halewyn. Et mon épouse m'apprit qu'un jour de vent, comme elle allait rêvant sur le grand rocher noir, lui apparut au loin une île dans la brume. De cette île lui vint une voix qui disait, dame au fier visage, dame aux longs cheveux d'or, je t'attends, viens à moi. Et cette voix était si tendre, captivante et douloureuse et belle, qu'elle sentit son âme et son corps emportés sur le vaste océan jusqu'au bord de cette île où était Halewyn. Avant de trépasser, ta mère, mon épouse, sur Dieu m'a fait promettre de te garder toujours dans ce château fermé. Car si tu le quittais, ton cœur s'échapperait, tu courrais aussitôt sur le grand rocher noir, tu entendrais la voix qui vient de ce pays au-delà de la vie, où Halewyn, sans cesse, éperdument, t'appelle et t'attend et t'espère. Lauriane, près du feu, resta tant étonnée qu'à peine elle entendit son père la quitter. Dès qu'elle fut seule dans sa chambre, elle joignit les mains et contemplant la nuit par la fenêtre ouverte. Étoile qui m'avait vu naître, dit-elle, qui est cet Halewyn à la voix merveilleuse qui emporta ma mère et pourquoi voudrait-il m'emporter moi aussi ? Mais les étoiles au ciel demeurèrent muettes et les saisons passèrent et mille fois Lauriane interrogea le ciel. Soleil qui m'a vu vivre, beaux oiseaux, vent joyeux, qui est cet Halewyn ? Et mille fois le ciel demeura silencieux. Et Lauriane se tut, et se tut si longtemps qu'elle tomba malade. Vinrent des médecins. Ils dirent à son père, Seigneur, elle va mourir. » Son père alors s'assit devant le feu et dit, « Fille, ma fille aînée, je sais de quoi tu souffres. Ce n'est pas maladie de terre, mais de lune. Tes yeux ne s'ouvrent plus, tes mains se refroidissent, des nuées de corbeaux là-dehors se rassemblent. Va ta vie, mon enfant, je te donne la clé de la porte de fer qui ouvre sur la mer. Prends aussi mon épée, qu'elle soit ton conseil, et quoi qu'elle t'ordonne, sans faute, obéis-lui. » Lauriane se leva, elle embrassa son père, descendit l'escalier et sortit du château. La brise, les embruns aussitôt l'enivrèrent. Elle courut au bord de l'océan, bondit de roc en roc dans les éclats d'écume, gravit le rocher noir parmi les cris des mouettes. Quand elle fut en haut, elle ferma les yeux et se baigna devant. Alors vint une voix lointaine, et pourtant aussi proche d'elle que la voix même de son âme, et seule, face aux vagues, elle entendit ces mots. Fille au visage fier, fille aux longs cheveux d'or, je t'attends, viens à moi. Tu n'es pas de ce monde où tu gardais ton père. Tu es de ce pays où je t'espère tant. » Elle s'abandonna à cette voix, se sentit emportée, légère dans la brume et le vent turbulent. « Adieu, » dit-elle à son rivage. Elle ferma les yeux. Après un bref voyage, elle sentit de nouveau la terre sous ses pas. Autour d'elle n'était qu'herbe tendre et buissons fleuris. Vers la forêt voisine où bruissaient 1000 oiseaux, elle s'avança. Alors, un cavalier sortit des hauts feuillages. Son cheval était noir, son habit était rouge, son regard était clair, innocent et si doux que le cœur de Lauriane lui bondit hors du corps. Devant elle, il mit pied à terre. « Je suis Aléwyn, » lui dit-il. Il soupira, sourit. Dans un souffle, elle dit, « Seigneur, quelle merveille !» « Je t'ai tant appelé, » dit-il. « Aléwyn, me voici. Je ne désire rien que te servir toujours, » lui répondit Lauriane. Il lui prit à deux mains, tendrement, le visage. « C'est ta vie que je veux, » dit-il. Elle répondit, « Mon prince, elle est à toi. » Il l'aida à monter derrière lui en croupe. Le cheval au galop s'enfonça dans le bois. D'abord, tout alentour ne fut que soleil vif au travers des feuillages. Puis vint la fin du jour et la rumeur du vent. « Aléwyn, Aléwyn, je me sens fatigué. Reposons-nous ici, par pitié, » dit Lauriane. Aléwyn répondit. « Le temps nous manque, ami. Des princesses t'attendent. Bientôt tu connaîtras le repos long et doux. » La lune froide vint et Lauriane gémit. « Seigneur, je suis glacée. Quand arriverons-nous ? » ?»« Annie, nous approchons. » Encore ils chevauchèrent. Leur cheval s'arrêta soudain sous un grand arbre. Aléwyn dit, « Regarde. » Aux branches étaient pendus de misérables corps en longues robes blanches. « Ce sont là tes compagnes, » dit encore Aléwyn. « Vois comme elles sourient, elles te font accueil. Bientôt, ma bien-aimée, tu seras parmi elles, plus belles qu'elles sont, plus hautes, plus légères. » Lauriane murmura, « Me faut-il donc mourir ? Tu m'as donné ta vie. » répondit Aléwyn. « Descendons de cheval et sois ici ma femme. » Sa voix était terrible et pourtant délicieuse. Ils mirent pied à terre. Lauriane, à son côté, prit l'épée de son père et murmura tremblante. « L'âme de bon conseil, dis-moi, que faut-il faire ?» L'épée lui répondit, « Décolle-lui la tête. » Lauriane leva l'arme et tandis qu'Alewyn lui tendait les mains, elle trancha son col et la tête abattue roula dans l'herbe noire. Alors, du cou tranché, sortit une voix pure comme une âme naissante. « Lauriane, mon aimée, retourne maintenant cette épée contre toi. Dans la mort je t'attends, dans la mort je t'espère. » Pour la deuxième fois, Lauriane murmura, « L'âme de bon conseil, dis-moi, que faut-il faire ?» L'épée répondit, « Décolle-lui les bras. » En deux coups, ce fut fait. Alors, du corps sans tête et sans bras d'Alewyn, une voix s'éleva, éperdue, magnifique. « Lauriane, mon aimé, retourne contre toi cette arme et viens à moi. Dans le pays sans fond, je t'attends, je t'espère. » Pour la troisième fois, Lauriane murmura, « L'âme de bon conseil, dis-moi, que faut-il faire ?» L'épée lui répondit, « Décolle-lui les jambes. » Et Lauriane obéit, mais le corps d'Alewyn demeura suspendu entre l'ombre du sol et celle du feuillage. « Oh ! Pur amour de moi, dit la voix de l'amant, pareil au chant du cœur du monde. Ne m'abandonne pas, je t'attends, je t'espère. Et les femmes pendues aux branches du grand arbre se mirent à gémir si lamentablement que Lauriane sentit sa poitrine se fendre. Ô reine, viens à nous, délivre-toi du monde. Nous sommes tes servantes au seuil de ton royaume. Alors, l'épée rugit. « Fille, tiens-toi debout, disperse dans le bois les bras avec les jambes, prends la tête et va-t'en !» Aux quatre coins du bois, Lauriane dispersa les membres, prit la tête, bondit sur le cheval d'Elewyn, chevaucha follement à travers la forêt. À l'aube, elle parvint au bord de l'océan. Les vagues écumaient contre les rochers sombres. Là, dans le vent furieux, se tenait une vieille au dos courbe, au long châle flottant comme un drapeau de deuil. Femme, lui dit Lauriane, comment quitter cette île? Parle si tu le sais. La vieille regarda la tête d'Alewyn, caressa ses cheveux et se mit à pleurer. Alewyn, Alewyn, au chant si beau, dit-elle, moi qui t'ai tant cherché, sans jamais te trouver. Puis désignant un creux de grotte aux eaux tranquilles, fille, là est sa barque, monte à son bord et va, elle te mènera au pays des vivants. Le vent gonfla la voile et la barque s'en fut. Et comme elle naviguait, Lauriane, sur son cœur, prit la tête précieuse et lui dit, « Alewyn, je t'emporte au pays des vivants. Je t'ai donné ma vie. Jusqu'à mon dernier souffle, ni de jour, ni de nuit, je ne te quitterai. » Et quand elle aborda au château de son père, on fit de grandes fêtes. Et dans la salle haute où l'on avait dressé le banquet du retour, chacun la vit entrer, avec, sur un plat d'or, la tête d'Alewyn. Et quand elle s'assit, elle mit cette tête à la place d'honneur et ordonna qu'on servît Alewyn, son époux. Grèce antique. Polyétos. P-O-L-I-E accent aigu, T-O-S. C'était un jour d'été. Dans le jardin peuplé d'oiseaux et de fontaines, la brise sommeillait. L'enfant Glaucos, G-L-A-U-C-O-S, jouait sous des arcades. Il était fils de roi. Son père était Minos, M-I-N-O-S, Pasiphae, sa mère, P-A-S-I-P-H-A-E accent aigu. Sa nourrice le vit courir après sa balle, entendit le bruit de ses sandales décroître sur les dalles. Il disparut derrière une colonne. La femme l'appela. Il ne répondit pas. D'ombres entraient de soleil dans la longue galerie blanche. Elle appela encore. Elle s'avança sous les arbres, bouleversée et tournant partout la tête. Ses cris n'émurent qu'une abeille dans l'indifférence des verdures. En hâte, elle ameuta les jardiniers et les servantes. Le roi Minos sortit, alerté par leurs courses et leurs affolements. Aussitôt informé, il ordonna que 100 esclaves fouillent le jardin, le palais, les greniers et les caves. Glaucos n'y était pas. Alors il fit battre la campagne au-delà des murs, les champs, les bois, les monts. Ce fut en vain. Après 10 jours enfin, Minos et Pasiphaë, son épouse, décidèrent d'aller demander secours à l'oracle de Delphes. D-E-L-P-H-E-S. L'oracle qui sait tout et qui ne ment jamais écouta leurs prières et gronda ses paroles obscures. Sur la terre de Crète, C-R-E, accent grave, T-E, c'est une grande île grecque. Un bélier vient de naître. Il est blanc le matin, rouge au plus haut du jour et noir au crépuscule. Qui saura découvrir quel fruit de ce pays ressemble à ce bélier, retrouvera l'enfant. Minos, dès son retour, convoqua ses devins, ses mages et ses poètes dans son palais pavé de mosaïques bleues. À tous, il rapporta la réponse de Delphes. Les hommes méditèrent longtemps en caressant leur barbe. À la tombée du jour, parmi ces gens, un regard s'éclaira. Le jeune Polyétos dressa l'index et dit « Une mûre, Seigneur, une mûre est semblable à ce bélier qui vient de naître, blanche quand elle éclot, rouge à moitié de vie, noire à maturité. » « Vrai, répondit le roi, c'est donc toi, Polyétos, qui retrouveras mon bien-aimé garçon. Va, cherche et reviens vite. » Polyétos s'en alla, perplexe. Au seuil du jardin. Où aller, se dit-il. La nuit était paisible. Au ciel brillait la lune et ses troupeaux d'étoiles. Il entendit ululer une chouette. Cela le fit sourire. Il lui parut que ce cri l'appelait. Il venait d'une vague cabane adossée à un pan de rempart. Il y alla, écarta les ronciers qui encombraient l'entrée. Dans la ruine n'étaient que des poteries brisées et des vêtements moisis. La chouette était perchée sur un rebord de jarre. Quand Polyétos entra, elle prit son envol par le toit grand ouvert. La jarre bascula, se brisa comme un œuf. De l'eau se répandit. Un être humain livide, ruisselant, roula dans les débris. C'était Glaucos. Il s'était noyé dans l'eau de pluie croupie qui emplissait le gros pot rebondi. Polyétos se pencha, prit l'enfant dans ses bras et s'en revint au palais. À la porte où brûlaient des torches, Pasiphaë gémit, tendit ses mains. Minos demeura impassible et glacial. « Tu as trouvé, Glaucos, dit-il. C'est bien. Rends-lui sa vie perdue maintenant. Seigneur, je ne sais pas ressusciter les morts, répondit Polyétos. Homme, tu le feras, rugit Minos. Sinon, tu périras comme a péri mon fils. Il fit un signe bref. 4 gardes saisirent Polyétos. Dans un caveau de marbre au milieu du jardin, on le fit descendre avec l'enfant noyé. La dalle retomba. Jusqu'à l'aube, accablé, la tête dans les mains, il contempla la nuit opaque de sa tombe. Au matin, un rayon de soleil, aussi ténu qu'un fil, éclaira vaguement Glaucos contre ses pieds. Alors, près de la main du jeune mort, apparut un serpent. Polyétos sursauta, voulut crier, ne put. Il prit son couteau, trancha la bête en deux. Comme il rengainait l'arme, un deuxième serpent surgit près de sa jambe, dressa sa tête, se retira soudain, disparut par un trou à l'angle du tombeau, revint presque aussitôt avec, entre les dents, une poignée de feuilles qu'il alla déposer sur la bête en morceaux. les deux bouts séparés se recollèrent. Le mort, ramené à la vie, suivit son compagnon dans son trou ténébreux. Polyétos, ébahi, ramassa le feuillage épars autour de lui, le contempla dans le creux de sa main. « Peut-être, se dit-il, qu'il ne faut pas comprendre, qu'il faut simplement voir, écouter, obéir. » Sur le visage de Glaucos, il répandit sa provision. L'enfant poussa un long soupir. Ses yeux s'ouvrirent, étonnés. Polyétos demanda « Vis-tu, fils de roi ?»« Je vis, » lui dit Glaucos. Il appela sa mère. Tous deux s'égosillèrent et cognèrent du poing contre la pierre. Les gardes accoururent. On souleva la dalle. Le jour éblouissant envahit le caveau. Pasiphae ouvrit ses bras à son enfant. Minos prit Polyétos aux épaules et lui dit « Oh, faiseur de merveilles !» Polyétos rit enfin, comme un miraculé. Mélampous. M-E accent aigu, L-A-M-P-O-U-S. Qui était Mélampous? Un homme rude et bon. Un jour, par pure pitié, il arracha des griffes d'un faucon deux serpents nouveau-nés. Ces bêtes, délivrées pour le remercier, enfoncèrent leur langue dans son oreille droite, dans son oreille gauche, en chassèrent quelques brouillards et grains de sable et lui dirent « Salut, désormais ton ouïe est assez fine pour que tu puisses entendre la langue des oiseaux, des insectes et des herbes. » Il en fut content. Son frère un jour lui dit « Je vais me marier. » Mélampous répondit « Que ton bonheur soit long. Frère, je t'offrirai le plus riche troupeau qui soit au monde. » Il chercha partout ce troupeau magnifique. Il le vit un matin dans un pâturage de montagne. Un homme veillait sur lui, assis sur un rocher, au bord du pré. Il était armé de pied en cap. À son côté grondait un chien terrifiant. Mélampous apprit que cet homme était un roi berger, qu'il s'appelait Phylacos, P-H-Y-L-A-C-O-S, et que ce Phylacos aimait tant ses moutons qu'il les gardait lui-même avec sa bête énorme. Il réfléchit longtemps. Je veux ce troupeau-là, se dit-il, aucun autre. Il leva la tête au ciel et murmura ces mots. Apollon, A-P-O-2-L-O-N, dis-moi comment l'avoir. Le dieu lui apparut dans une brume d'or au sommet d'un arbre. Il répondit ceci. Quand la nuit tombera, fais mine de le voler. Phylacos te prendra, ne lui résiste pas. Il t'emprisonnera 365 jours. Au terme de ce temps, il te fera cadeau du troupeau désiré. Que devrais-je faire pour mériter ce don? Vivre, dit Apollon. Il disparut en fumée lumineuse. Mélampous réfléchit encore, puis se dit « Une année de prison pour un pareil troupeau, c'est un prix raisonnable. » Au soir, il vint rôder autour de l'enclos. Le chien de Phylacos gronda. Il lui lança des pierres. Alors, quatre veilleurs lui bondirent dessus, lui prirent bras et jambes. Il se laissa jeter dans un cachot malodorant. Là, nourri de vieux os et de soupe d'eau trouble, il regarda passer par la lucarne un automne pluvieux, un hiver sec, un printemps plein d'oiseaux, un été aux nuits douces. Un matin de septembre, comme il se réveillait sur sa litière, il entendit parler au-dessus de sa tête. La voix était à peine perceptible. Elle semblait sortir d'une poutre au plafond. Il écouta, les yeux grands. La voix dit « Creusez, trouez, rongez sans trêve, frère. Le bout de vos tunnels est proche. Si vous vous acharnez assez, cette charpente, à minuit, tombera. » Mélampous se dressa. Il appela « Phylacos !» Il entendit le pas dehors du roi berger. Sa figure, aux yeux perçants, à la barbe bouclée, parut à la lucarne.
« Que veux-tu ? »
demanda-t-il.
« Change-moi de prison, sinon ce toit s'effondrera ce soir, à minuit sur ma tête. »
Philakos éclata de rire. Il gronda joyeusement.
« Tu es devenu fou. Les rats, sans doute, ont rongé ta cervelle. »
« J'ai dit ce que je sais. Je ne veux pas passer la nuit prochaine ici. »
Philakos l'empoigna, le poussa devant lui jusqu'à la porcherie. « Je te donne à mes porcs, » dit-il.
Il s'en alla. Le lendemain, il revint effaré, arracha Mélampousse à ses fumiers, l'attira au soleil, désigna le désastre. Au fond de la cour, quatre murs nus fumaient. Le toit de tuiles était dedans.
« À minuit, » dit le roi, « les poutres, tout à coup, sont tombées en poussière. »
Il fit trois pas hésitants vers la ruine, s'en revint, dit encore.
« Es-tu donc magicien ?»«
Un peu, » dit Mélampousse.
« Ton pouvoir m'ébahit. Écoute, homme puissant, mon fils est malade. Il dépérit sans cesse. J'ai peur qu'il ne meure. Si tu lui rends la vie, mon troupeau est à toi. »
« Aie confiance, » dit Philakos. « Je ne sais pas comment, mais je le guérirai. » Derrière le palais était une colline. Mélampousse y grimpa. Sur la cime n'était qu'un olivier sauvage. À l'ombre de ses branches, il regarda, en bas, la vaste demeure et la cour sainte de murailles rustiques, puis, levant vers le ciel, sa face amaigrie. « Apollon, » dit-il, « que faut-il faire ? » D'un nuage doré entre le soleil et la terre sortirent deux vautours. Ils planèrent un moment autour de la colline, puis vinrent se poser sur l'olivier. Mélampousse entendit l'un des deux dire à l'autre.
« Nous n'étions pas venus, je crois, depuis ce jour où le roi Philakos a châtré deux taureaux dans le jardin de son palais. »
« Ce jour-là, compagnon, répondit l'autre, le fils de Philakos a connu l'épouvante, comme il a hurlé quand il a vu son père avec sa longue lame ensanglantée. Je crois qu'il a eu peur d'être châtré aussi. »
« Philakos, il me semble, reprit le premier, a planté son couteau dans un tronc de poirier, puis il a pris son fils dans ses bras en riant.
« En vérité, compère, dit l'autre, il ne l'a pas consolé. » Son garçon, depuis ce jour-là, souffre d'une langueur mortelle.
Pour le guérir, il faudrait retirer la lame du tronc d'arbre, gratter la rouille qui la couvre et la mêler au lait qu'il boit tous les matins.
Crois-tu que Mélampousse comprenne notre langage ?
Il paraît que oui. Tais-toi donc, compagnon, sinon le roi berger devra bientôt lui faire un cadeau inestimable.
Les vautours ricanèrent. Ils s'envolèrent dans un grand froissement d'ailes, disparurent au fond du ciel. Mélampousse contempla au loin dans la prairie l'innombrable troupeau qui paissait dans l'herbe. Il lui ouvrit les bras. Puis, parmi les buissons et les cailloux, il descendit la pente en souriant au roc, au parfum de la brise, à la bonté du temps.
Midas, M-I-D-A-S.
Midas était roi de Phrygie, P-H-R-Y-G-I-E. C'était un bon vivant. Il festoyait parfois avec Dionysos, D-I-O-N-Y-S-O-S, dieu de la vigne et du délire, qu'il aimait d'amitié joyeuse. C'était au temps où les immortels venaient parfois dîner chez les gens de la terre. Un jour, les gardes du palais trouvèrent sous la treille du roi un vagabond à la trogne avinée, aux sourcils broussailleux, au front couronné de grappes de raisin. Le bougre sommeillait, la panse répandue, aussi insouciant qu'un ours au paradis. À grands coups de pique ferré, il fut mené devant Midas. Le roi reconnut aussitôt ce paillard. C'était Silène, S-I-L-E accent grave N-E, sage parmi les fous, et fou parmi les sages, ivrogne majuscule et fraternel ami de Dionysos.
Midas, confondu de voir qu'on l'avait quelque peu malmené, lui offrit un manteau d'épanderie royale, le parfuma de pied en cap et lui fit l'honneur d'un festin magnifique. 8 jours durant, on s'empiffra, on but, l'on chanta. Au 9e matin, le roi et ses convives, en troupe titubante, ramenèrent Silène affalée sur un âne à Dionysos, qui s'inquiétait beaucoup de ce vieux compagnon. Depuis une semaine, sur son char d'or tiré par 40 tigres, il courait les routes à sa recherche. Il se réjouit de le voir revenu. Il embrassa Midas. « Mon ami, lui dit-il, tu es bon. Tu as su traiter Silène comme un frère. Pour t'en remercier, il me plaît de satisfaire ton désir le plus cher. Parle donc, je t'écoute. » Midas lui répondit en agitant les doigts devant ses yeux luisants. « J'aimerais que tout ce que je toucherai désormais devienne d'or. » Dionysos, la bouche ouverte au ciel, éclata d'un rire tonitruant. « Ah ah, ce que tu veux sera, dit-il, que tes mains soient fertiles, homme imprudent. » Midas revint chez lui, débordant de bonheur et bouillonnant d'envirard. Il gravit l'escalier de son palais. Il poussa le portail qui aussitôt étincela. Il était de bois, il fut d'or. Il courut à ses appartements, écarta un rideau devant une fenêtre. Il le vit à l'instant tissé de fils d'or. Il se mit à danser. La tête renversée, il saisit une mouche. Un grain d'or lui roula au creux de la main. Il le baisa rieur et le jeta à ses gens. « J'ai faim !» dit-il. Un repas lui fut servi sur l'heure. Il prit un bout de pain. Il était d'or quand il parvint à sa bouche. Il en fut surpris. Il ordonna que l'on noue sa serviette autour de son cou et qu'on le nourrisse comme on donne la becquée aux enfants. Il tendit ses lèvres avides au serviteur courbé sur son assiette d'or. À peine eut-il mordu dans sa galette qu'il eut de l'or entre les dents. Il le cracha, gémit. « Je vais mourir de faim, malheur. Je me sens déjà maigre. » Au secours, Dionysos, je t'offre mon palais pour un fromage et un cruchon de vin. L'énorme rire du dieu résonna sous les plafonds voûtés. Midas se dressa effaré. Il entendit ces mots. Ah, seul l'eau du fleuve Pactole, P-A-C-T-O-L-E, peut te débarrasser de ton pouvoir. Va te laver ou n'y va pas. Vis ou meurs, Midas, que m'importe. Midas galopa jusqu'au fleuve. Il s'y plongea, s'y lava longtemps et put enfin manger quelques oignons que lui offrit un berger sur l'herbe de la rive. Après la frayeur qu'il avait eue, il lui sembla renaître. Assis à l'ombre d'un chêne, il se prit à rêver aux beautés de la vie rustique. L'or, il le haïssait désormais. La fortune, à quoi bon, dit-il. Dans le pré devant lui, il vit venir un être à la barbe folâtre, aux pieds de chèvre, à chevelure cornue. Il jouait de la flûte. Son chant était joyeux, mais faux et criaillant. Midas le reconnut. C'était Pan, P-A-N, dieu des ruisseaux et des bois. Il pensa, voilà bien l'immortel, le plus simple et le plus doux qui soit. Désormais, c'est sa seule amitié que je veux cultiver. Il s'approcha de lui et lui dit, ton chant est admirable. L'autre lui fit soudain un sourire tordu, s'escrima de plus belle. Sa flûte bavarda soudain, comme une pyraleuse. « Quelle subtilité !» dit encore Midas. « En vérité, tu joues mieux qu'Apollon !» Apollon, dieu des arts, entendit ces mots de son balcon céleste. Il en eut aussitôt une aigreur dans le nez. Il se laissa glisser sur un rayon de soleil, apparu devant le pré devant Midas. « Tu trouves ? » dit-il. La mine pincée. Je crois que ton ouïe manque un peu de finesse. Il effleura sa tête d'un index négligent et dit encore. Ainsi elle sera meilleure. Il s'effaça dans l'air, tandis que Midas, les mains affolées, découvrait contre ses tempes 2 oreilles velues, étrangement mobiles, terriblement longues. Misère, gémit-il. J'ai des oreilles d'âne. Tenant son manteau sur le crâne, courbé comme sous une averse, il s'en revint chez lui, se coiffa d'un turban pointu, se regarda dans un plateau d'argent. Il se trouva grotesque. Il caressa sa nuque. Ses doigts s'égarèrent dans un fouillis de poils raides, piquants et drus. Il manquait à son échine la crinière de l'âne. Il la sentit pousser. Comme on crie « Je me noie !» il hurla « Mon barbier !» Le barbier vint. Midas s'enferma avec lui dans sa chambre. Il ôta sa coiffure. L'autre, Pantois, poussa un long sifflement frêle.
Tu me trahis, tu meurs, lui dit Midas. C'est clair.
C'est parfaitement clair, répondit le bonhomme.
Maintenant, rase-moi.
L'autre fit son ouvrage. Ces sortes de secrets sont les plus lourds du monde. Le barbier porta le sien 3 jours. Au matin du 4e, quitte à mourir après, il fallut qu'il le dise. Il se prit par la main et se mena dehors. Il marcha jusqu'au fleuve. Parmi les hautes herbes, il tomba à genoux devant une touffe de roseaux. Il murmura. Le roi Midas a des oreilles d'âne. Voilà, j'ai parlé. Salut, je me sens beaucoup mieux. Le vent vint aux nouvelles. Il souffla. Qu'a-t-il dit ? Les roseaux répondirent. Le roi Midas a des oreilles d'âne. Les arbres répétèrent. Eh, buisson, il paraît que Midas a des oreilles d'âne. Et les buissons bruissèrent. Étrange en vérité. Midas ! Dit une fille. Elle éclata de rire. Le secret s'envola et le voici posé dans tes oreilles fines. Si tu rêves trop haut, prends garde qu'elle ne pousse. Psyché, P-S-Y-C-H-E, accent aigu. Il était une fois une fille de roi. Son nom était Psyché. Dans ses yeux brillaient toutes les bontés du monde, et pourtant on s'y perdait comme dans une nuit infinie. Elle avait un grain de beauté au milieu du front. Elle était timide et sereine. Elle avait 18 ans quand le malheur tomba sur elle. La fragile perfection de son visage émut un jour le dieu Eros, E accent aigu, Eros. Il l'aperçut au pied d'un chêne. Un rayon de soleil caressait sa chevelure dans la paix du jardin où elle allait parfois à la rencontre secrète de ses rêves. Il en fut éberlué d'amour. Son cœur était pourtant comme une citadelle aux murs aveugles. Ce jour-là, il s'ouvrit pour la première fois. Il regarda Psyché longtemps sous le feuillage, puis s'en revint dans son pays céleste comme un grand oiseau ivre. Il entra dans le palais de sa mère Aphrodite, A-P-H-R-O-D-I-T-E, s'avança devant elle et dit « Une mortelle a troué mon regard. » Il resta silencieux un moment, il dit encore « Sa beauté est plus haute que la tienne. » Aphrodite pâlit. Une lueur haineuse s'alluma dans ses yeux. « Qui est-elle, mon fils ?» Eros lui répondit. « C'est Psyché. » Aussitôt, un brouillard noir tomba sur le royaume où vivait cette fille. Les gens aveuglés cherchèrent le soleil. Le roi prit d'effroi, tendit ses mains au ciel et demanda aux dieux quel crime avait commis son peuple pour endurer un pareil désastre. Aphrodite apparut devant lui. Elle lui dit. « Conduis Psyché en vêtements de deuil sur le plus haut sommet des montagnes de Grèce. Au pied du dernier roc, entre la terre et les nuages, tu la laisseras seule. Un monstre viendra. Il la prendra pour femme. Quand j'aurai vu cela, ton pays revivra. » Le roi baissa la tête, pleura dans ses mains, hurla son refus de sacrifier ainsi sa fille. Il obéit pourtant. Au soir, en long cortège, elle fut amenée sur la montagne. Quand les gens l'eurent abandonnée, elle se laissa aller contre le roc et son esprit sombra dans l'obscurité sans mémoire. Quand elle revint au monde, elle ne vit d'abord qu'un vague plafond d'or orné de figures peintes qui la regardaient. Elle était couchée sur un lit de fourrure. Elle se dressa. Par la fenêtre ouverte, elle aperçut un pan de verdure, une échappée de ciel. Elle entendit des bruits de pas furtifs. Elle se retourna. Près d'elle était un être. Il était souriant, fluet comme un roseau.
ses cheveux paraissaient de brume. Il lui dit « Bienvenue dans le palais de mon maître. »« Qui es-tu ? » demanda Psyché. « On m'appelle Zéphyr, Z de accent aigu, P-H-I-R. Je t'ai tout à l'heure enlevé d'un coup d'aile à la montagne où tu allais mourir. » Il rit et disparut. Psyché se reposa parmi les oiseaux qui parfois venaient volter dans sa chambre. À la nuit, une ombre s'approcha d'elle. Une voix parla contre sa tempe. « Ne cherche pas à voir mon visage, Psyché, sinon tu me perdrais à jamais. » Un homme se coucha sur le drap. Ses gestes étaient doux, sa présence était émouvante. Il dit encore, « Un jour, nous vivrons au soleil. » Le lendemain matin, quand Psyché se réveilla, elle chercha l'ombre aimante sur l'oreiller. Ses doigts ne rencontrèrent que son absence tiède. Des esclaves vinrent la parfumer, lui servir des fruits, du lait, des amandes. Elle sortit dans le jardin, s'y promena longtemps. À la tombée du jour, l'amant revint, à peine plus obscur que l'ombre nocturne. Cette fois, elle caressa son visage dans le noir et se plut à imaginer ses traits. Elle effleura son front, l'arête de son nez, baisa sa bouche. Cette bouche lui dit « Ferme les yeux, Psyché, tu ne dois pas me voir. » Au matin, à nouveau, elle se réveilla seule. Elle refusa de toucher au déjeuner qu'on lui porta, renvoya les esclaves et descendit au jardin. Le jour lui parut long et la lumière trop vive. La nuit venue, auprès de son époux sans figure, elle ne put dormir. Une heure avant le jour, tandis qu'il sommeillait, elle se leva, alluma une chandelle et se pencha sur ce corps d'homme impatiemment aimé. Au bout de son bras levé, la lueur trembla soudain. Le visage éclairé était celui d'Eros. Un peu de cire chaude tomba sur sa poitrine nue. Ses paupières battirent, il détourna les yeux. Psyché gémit, souffla la flamme. Dans l'obscurité revenue, le dieu lui dit « Tu m'as perdu. » Un tourbillon la prit, elle s'entendit hurler au loin dans la tempête, ouvrit les yeux enfin. Elle était à nouveau sur la montagne, abandonnée de tous, pelotonnée contre le rocher de la cime. Dans la vallée, des torches en cortège s'éteignaient une à une. De longs nuages au ciel tranchaient la lune. Glacée de corps autant que d'âme, elle écouta le vent. Sa rumeur se mêlait au fracas d'une cascade. Elle se dressa, courut vers un bruit d'eau furieuse, parvint au bord d'un gouffre. Les bras ouverts, elle se laissa tomber en avant. Il lui sembla qu'une main grande comme une aile d'aigle la retenait dans l'air et la portait au-dessus des écumes fumantes. À l'aube, elle se réveilla au bord d'une rivière. La main secourable l'avait déposée là, au pied de la montagne, sur l'herbe de la rive. Dans la lumière du matin, elle vit venir à elle un vieux berger, vêtu d'un long manteau bouclé. Il lui sourit, ne dit rien, mais lui donna du pain. Il lui offrit à boire au creux de ses mains, puis lui désigna un temple au bout du pré. Il l'accompagna jusqu'à sa porte et s'en retourna sans un mot de salut. Psyché entra seule dans l'ombre fraîche. Le lieu était désert. Au fond, deux lampes brûlaient. Entre elles était une statue d'Aphrodite. Psyché s'approcha d'elle, s'agenouilla, posa son front sur les dalles et demanda grâce. Alors, la bouche de pierre parla. Elle dit « Tu m'as volé mon fils et ma gloire. Dans la montagne est une brebis d'or. Porte-moi un flocon de sa laine. » Et je te pardonnerai le mal que tu m'as fait. » Psyché se releva et s'en alla, pareil à une mendiante sauvage. Elle marcha longtemps parmi les friches rocheuses, goûtant à peine à l'eau des sources, aux fruits des buissons. Un soir, à bout d'espoir, elle s'endormit sur une pierre plate. Au matin, un corbeau posé sur son épaule laissa tomber près d'elle une boucle de laine d'or. Sur la crête du mont, une brebis éblouissante galopait dans le soleil naissant. Fin de la première face de la deuxième cassette.
Henri Gougaud, L'arbre d'amour et de sagesse, page 71. La suite et fin de l'histoire de Psyché se trouve sur la deuxième face de cette cassette. À tout de suite.